Un jour, j'en avais tellement marre de me sentir bloquée sur scène que j'y suis allée à fond, je suis rentrée en transe, mais j'ai fini en blackout et j'étais à ça de m'évanouir.
À mes 19 ans, j'habitais en Grèce dans le cadre de mes études et je suis parti en voyage à Athènes seul pendant quelques jours. J'ai visité l'Acropole et face au Parthénon, j'ai eu une épiphanie. C'était la première fois que je ressentais ça. Et depuis ce jour, ça me porte et ça résonne en moi, surtout artistiquement.
L'année dernière, j'ai tellement perdu espoir que j'ai voulu arrêter le théâtre. Finalement, j'ai accompagné une amie passer un concours en tant que réplique. On m'a proposé de passer l'audition. Et ce soir, je suis avec vous.
Plus j'ai grandi, plus le théâtre il a pris une place dans ma vie, tellement qu'au niveau des études, ça ne suivait plus. Sauf que pour ma mère, l'école, c'est quelque chose de très important. Et donc, elle m'a un peu mis l'ultimatum de « si ta moyenne, elle remonte pas, tu ne retourneras plus au conservatoire ». Et tel le tragédien que j'étais déjà à l'époque, je lui ai crié d'un cri du cœur « c'est le théâtre ou la mort ». Bonjour à tous et bienvenue dans l'enfance de l'art, une masterclass de la comédie. Aujourd'hui, nous recevons Sylvain Creusevaux, metteur en scène, bonsoir.
Bonsoir.
Et Arthur Igual, comédien, bonsoir.
Bonsoir.
Et nous sommes Paulin Torrent,
Ilham Decote,
Evan Mella
et Bérénice Renaud.
Donc on va commencer par une première question. Je vais remettre un petit contexte. Moi, j'ai grandi dans une famille qui m'a tout de suite montré énormément de choses, de films, d'albums, de livres, etc. etc. Donc quand il a été question de ce que j'allais faire de ma vie, c'était une évidence, le théâtre. J'avais aucune idée de ce que j'allais faire d'autre. Et je me demandais si vous aussi, vous avez été directement plongé dans un milieu artistique où vous avez eu une autre nécessité à faire du théâtre ou enfin, plus largement quelque chose d'artistique.
Moi, ça a commencé très vite, puisque ça a commencé à 6 ans, quand je suis allé voir un spectacle en 1989 pour le bicentenaire de la Révolution française au Jardin des Tuileries. C'était une reconstitution en grandeur nature, à l'échelle 1, avec une guillotine qui arrivait comme ça, et mon père m'y a emmené. Et donc, j'avais donc exactement 6 ans, puisque je suis né en 83. Et quand j'ai vu ce spectacle, et cette guillotine, et la tête du roi qui tombait, et les gens qui faisaient « mort, moi je sais pas quoi », et j'ai dit à mon père « je voudrais être avec les gens là-bas sur scène ». Et donc j'ai commencé un cours de théâtre et mes parents n'étaient pas du tout dans l'art, mais quand même ma mère était institutrice et elle aimait bien faire des spectacles avec c'était vraiment une géniale institutrice, elle travaille plus maintenant, et elle s'est beaucoup servie du théâtre avec ses élèves en primaire. Et je dois dire que je me suis rendu compte que j'allais souvent dans sa classe. Et j'avais l'impression, il y a toujours une petite estrade comme ça dans les salles de classe, et j'avais l'impression qu'à chaque fois que je la voyais, je me disais, mais c'est pas la même, c'est pas vraiment celle que je connais, et que déjà elle montait sur scène en fait. Donc ça m'a fait un premier contact avec ce que c'est que monter sur une scène et jouer, et puis voilà, puis moi à 6 ans, j'ai dit comme ça.
Non, j'étais pas parti pour faire du théâtre parce que je faisais du handball et du tennis en sport-études. Et donc, c'était plutôt le sport pour moi. Et pas du tout d'évidence littéraire, théâtrale, tout ça, ou même. Et vous savez, quand on est en sport-études, entraîné par les ligues régionales ou souvent en fin de tableau dans les tournois, on se retrouve à jouer contre des personnes qui sont dans ta classe, en fait, et tout ça. Et j'avais un pote, Jean-Luc Nguyen, et j'avais une demi au Racing Club de France contre Jean-Luc Nguyen, je sais pas, à 16h ou à 15h quoi, et on avait cours ensemble en études le matin, et il a pas voulu me dire bonjour parce que on jouait ensemble l'après-midi, et donc j'ai joué le match et j'ai arrêté le tennis, voilà. Bon, parce que j'ai trouvé le milieu pourri et je suis rentré dans le théâtre, mais c'est pas mieux.
Quand vos familles ont appris que le théâtre, ça allait être votre vie, que vous allez en faire votre métier, que c'est un vrai métier, comment ils ont réagi ?
Moi, j'ai l'impression de ne pas avoir laissé le choix. Et ça ne semblait pas une lubie, en fait. J'ai l'impression qu'en tout cas, ils avaient remarqué que ce n'était pas juste comme ça, quelque chose qui venait de nulle part. Mais mon père m'a dit, comme ta maman et m'a dit passe ton bac d'abord. Mon père, il avait arrêté l'école à 13 ans et pour lui, l'école publique et tout, c'était vraiment très important. Lui, c'était le certificat d'études à l'époque, donc il avait arrêté le certificat d'études et il me disait faire l'école, c'était aller jusqu'au bac. Donc il m'a demandé d'aller jusqu'au bac que j'ai eu au rattrapage à 10-0-0-0. et c'était comme ça. Mais sinon, après, j'ai l'impression, quand j'ai dit que j'aurais pas laissé le choix, c'est que c'était vraiment. Tout le temps chez moi, mes premières sorties, mon premier argent de poche, c'était pour aller voir des spectacles. Et tout. Si Sylvain, c'est vrai. Il connaît trop, donc il va avoir l'impression, je romance pas tant que ça. Et bah ça y est. T'as cassé mon conte de fées.
Non, c'est super, on veut le conte de fées.
On veut l'anecdote.
Non, mais rien, mais j'ai pas de... Non, non mais j'attends, non. Non, mais c'est étonnant que tu veuilles... Attends, quand même, c'est étonnant que ton premier argent de poche, tu le mettes dans des spectacles.
Et des clopes aussi.
Ah.
Ah oui, il fallait partager avec les cigarettes, mais à l'époque, ça coûtait moins cher. Non, mais parce qu'en vrai, j'ai appris beaucoup à l'école du spectateur, moi. À être acteur. Beaucoup, beaucoup, en regardant des spectacles. D'ailleurs, avec Sylvain, on s'est connus jeunes et on a eu quelques disputes sur des spectacles. On s'en souvient encore et on en parle encore de ces spectacles qu'on a vus à 14 ou 15 ans où on n'était pas d'accord. Et j'ai beaucoup appris à l'école du spectateur.
Quand j'ai arrêté le sport études, du coup, après, j'étais encore en seconde à ce moment-là. Et donc, en première, j'ai changé de lycée. J'ai fait une option théâtre, quoi, tu vois, à Claude Monet. C'est un lycée dans le 13e à Paris. La compagnie intervenante de cette option lourde, c'était Emmanuel de Marcimota, un ancien directeur du Centre dramatique de Reims. Et je n'ai pas le souvenir, en fait, je ne dirais pas comme Arthur, parce que je ne pourrais pas le dire comme ça, mais je n'ai pas le souvenir d'avoir une conversation avec mes parents qui dit je vais faire du théâtre. J'ai pas ce souvenir.
Oui, c'était pas un sujet.
Ben je crois pas.
Non, y a pas. C'est ok.
En tout cas j'ai pas connu le truc. Tu sais que ce serait une
lutte de devoir convaincre.
Convaincre ou que c'est pas ce qu'ils attendaient ou qu'ils attendaient quelque chose. Ou
c'était très ouvert. Il y avait pas de.
C'était sans eux en fait. Mm. C'était sans eux. Mais ça a été très vite pour moi sans mes parents. Hein. D'ailleurs, Arthur a dit la chose. Arthur est t'es sans doute une des personnes les plus importantes de ma vie. Et quand j'ai arrêté le sport études, je suis resté un an. Enfin, j'avais déjà rencontré un peu le club théâtre du lycée, donc c'est quand même quelque chose qui m'intéressait. Et il venait déjà voir les spectacles. Donc on parle quand on a 14-15 ans, là. Donc on en a 45. Donc, ça s'est plutôt passé avec Arthur qu'avec ma mère.
Ça tombe bien que vous parliez du lien que vous avez tous les deux, parce que voilà, nous, on sait ici que le théâtre, c'est un milieu de rencontres, de réseaux aussi, mais aussi d'amitié beaucoup. Et on sait que nous, ce qu'on est en train de vivre ici à la Comédie, c'est très fondateur pour tout le reste de notre vie. Et donc ce soir, Sylvain, tu as proposé à Arthur de passer ce moment avec nous. Et donc voilà, nous on se demandait comment ce compagnonnage entre vous, il a duré dans le temps, que ce soit dans le travail, dans l'amitié.
C'est pas vrai ce que tu dis. C'est beaucoup de réseaux, très peu d'amitié. Mais comme tu as dit que tu voulais du conte de fées, je comprends. Il y a quelques amitiés, il y a surtout beaucoup de travail. Et on s'est rencontré Arthur justement dans la rue en attendant un cours de théâtre qu'on allait à une rentrée où on allait prendre tous les deux. Et
rue du Dragon.
Rue du Dragon. Tu portais une casquette? Non, pas encore peut-être.
Non, c'est toi qui me l'as offerte la casquette.
T'avais un blouson jaune Columbia.
Timberland jaune.
Et il était du côté gauche de la trottoir et moi du côté droit. On s'est croisés du regard. On maquillait la timidité en agressivité.
T'avais les cheveux longs, t'avais un scooter et t'avais ton casque. Il avait un catogan, des cheveux très blonds comme ça qui dépassaient du casque.
Non mais oui. Franchement, c'est rare. Hein. Le travail avec Arthur, l'amitié, enfin toute cette conjugaison-là. Mais surtout, c'est rare qu'il supporte encore de m'écouter et c'est rare que je supporte encore de le regarder, non? Non, mais ça semblait évident qu'on s'invite, enfin qu'on soit là, puisque c'est ensemble qu'on a fait la compagnie. Enfin, entre autres, hein, je veux dire, il n'y avait pas qu'Arthur, mais on l'a fait ensemble. La première compagnie ensemble en 2002, il y a 25 ans à peu près.
du coup, est-ce que vous auriez un mot que vous avez envie de vous adresser ce soir l'un à l'autre? Un petit quelque chose, juste comme ça.
Une petite déclaration.
Sylvain, attends, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire là? C'est chiant parce que c'est de la radio, du coup on a l'impression que les silences, il faut les combler.
Je peux dire quelque chose qui m'a traversé il y a quelques jours, qu'il ne sait pas, et dont il se doute peut-être puisqu'il vient de l'évoquer. Avec Arthur, on a eu une grande engueulade sur un spectacle qui était Vie de Galilée, Bertolt Brecht, dans une mise en scène de Jacques Weber. Théâtre de la Colline, on doit être en...
La mise en scène était de Jacques Lassalle, et Jacques Weber jouait le rôle de Galilée.
Voilà. Et c'était une mise en scène, tu vois, mais je ne sais plus quand c'était ça, 2000,
c'était 2000, bien.
2002. Et moi, je n'avais pas beaucoup aimé, Arthur, il l'avait beaucoup aimé. Et il y a quelques jours, je me suis dit qu'Arthur devait jouer Galilée. Peut-être on pourrait faire Galilée.
Malheur au pays qui a besoin d'un héros.
Malheur le pays qui a besoin d'un héros. Galilée Andrea. Tu connais ça, Galilée?
Et non.
Tu connais pas?
Ah non, je connais pas. Mais j'ai hâte de vous voir, vrai, du coup, dedans.
Vous connaissez pas Galilée?
Si.
Mais ah si, quand même, quelques-uns, enfin certains. Il ah ben toi, t'as une chance énorme.
Il a été condamné à mort pour, parce qu'il avait des théories qui étaient vraies d'ailleurs. Non, tu connais pas Galilée.
Okay. Non, non, mais pas Galilée, le personnage historique, mais la pièce de Brecht.
Oui, la pièce de Brecht.
Ah ouais, c'est
oui,
génial, oui. Ça. Génial.
Ouais. Eh ben, je lirai Galilée.
Je l'ai chez moi, je te le prêterai.
Ou j'irai voir Arthur en Galilée.
Ouais. Oui, les deux.
Et toi, Arthur, est-ce que tu as quelque chose?
J'ai une partie de moi-même ou un fantôme de moi-même qui est hanté par la possibilité. Ça m'est déjà arrivé, mais en fait, pas vraiment, de voir un jour un spectacle de Sylvain dans lequel je ne serai pas. Et c'est comme un cauchemar, parce que j'aimerais pas que ça arrive. Et en même temps. Non, c'est pas. C'est que je n'arrive pas à l'imaginer. Et c'est un effort que je fais souvent. Pas les spectacles dans lesquels je suis, de dire, tiens, si j'étais spectateur de ce spectacle. Mais je fais souvent cet effort-là de me dire, pas. Si, bien sûr, un truc narcissique, parce que je ne serais pas là et tout, mais en même temps, d'imaginer, tiens, qu'est-ce que ça serait de regarder un spectacle dans lequel je ne serais pas dedans. Et ça, c'est pour ça que je dis, c'est comme fantomatique, parce que ça demande de moi comme de devenir moins matière.
En tant que jeune acteur et actrice, on a des envies, on a des désirs, on a des formes vers lesquelles on a envie de se tourner. Et surtout, on a parfois des visions très claires de ce qu'on veut raconter et ce qu'on veut faire au théâtre. Alors moi, ma question, c'était, est-ce que vous, à notre âge, vous aviez déjà une vision très claire de ce que vous vouliez faire au théâtre? Et avec le recul, est-ce que vous avez le sentiment de l'avoir réalisé?
Moi, je ne sais pas quand. Mais en tout cas, je peux dire que j'ai adoré la période de l'école pour essayer plein de choses que je sais que je ne ferais... Je ne pouvais pas le dire sur le moment, mais je sentais que ce n'était pas mon penchant. Mais c'était une joie énorme de faire ces choses dans le lieu de l'école pour vivre l'expérience. Mais il y avait une intuition quand même qui dit « je ne pense pas que je vais passer ma vie à faire cette forme, par exemple. » Comme on a pu faire, comme on fait dans le théâtre du conservatoire, ou des formes. Mais c'était un plaisir de passer à travers. Mais pas pour le truc de dire, de faire les gammes et tout ça, parce que c'était rencontrer quand même des univers et rencontrer... je peux dire que quand j'ai vu Les Frères Karamazov de Christiane Loupa, j'ai dit, tiens, là, je parle vraiment dans l'art de l'acteur, dans ce qu'avait l'air de Zeroulé, que je ne connaissais pas grand-chose, à ce qu'il avait fait du monologue intérieur et tout, j'y connaissais rien. Mais je me souviens, quand je l'ai vu, j'avais 16 ans. Et je sais que là, par contre, cette forme-là, dans ce qu'on appelle le jeu d'acteur au théâtre, m'a happé et m'a dit, tiens, ça, j'aimerais bien réussir à savoir le faire un jour, que je ne savais pas exactement identifier ce que c'était. Mais quand même, une présence, là, des actrices et acteurs à être, qui me semblait quand même un objectif à atteindre. Mais là, je parle vraiment que dans le travail d'acteur, pas forcément dans la mise en scène et dans le truc, où c'est devenu un but pour moi. Et puis après, finalement, autrement. Et ça, je m'en souviens très précisément. Piotr Skiba, notamment, il jouait là. Je me dis, ah tiens, ça, c'est un objectif de réussir. Et que, encore une fois, que je n'ai pas les mots pour dire ce que j'en pensais à l'époque.
De mon côté, si tu veux, j'adore regarder les acteurs et les actrices jouer. Donc, ce qui est primordial pour moi, c'est pas la forme de jeu, dans un premier temps, quand je suis spectateur, c'est le jeu en tant que tel. Parce qu'en fait, c'est quand même assez rare. Ce que les gens ont à dire sur le monde, les écritures, tout ça, c'est pas mon truc au départ. Au départ, c'est est-ce que ça joue ? Si ça joue, c'est vivant. Et c'est difficile d'être vivant. Donc, si tu veux, que ce soit une forme de comédie dell'arte, que ce soit masqué, que ce soit une forme de jeu psychologique, que ce soit une forme de jeu épique, une forme de jeu lyrique, du moment que ça joue, alors c'est une bonne base. Après, moi, ce que j'aime bien, en tant que, au fur et à mesure, quand j'ai forgé les outils, avec les actrices, mais aussi par moi-même, c'est d'essayer de trouver les ressorts, enfin, trouver les manières pour qu'une forme de jeu d'une autre soit distinguable exactement de la même manière que deux outils différents sur un établi. Si je te demande de jouer sous une forme de jeu donnée, c'est pas une autre forme de jeu donnée. Et que parfois, quand je regarde les jeunes gens travailler, ou nous-mêmes, je vois que nommer une forme de jeu ne suffit pas forcément à l'acteur pour qu'il saisisse exactement l'outil qui est un tournevis. Je veux dire, si je te présente un tournevis, tu ne vas pas penser que c'est un marteau, tu vois. Deux formes de jeu doivent être aussi différentes et clairement définies, énoncées et praticables comme deux outils si différents sur un établi. C'est très matériel, une forme de jeu. Bien sûr, ça se concrétise aussi à partir de formes symboliques. Ce n'est pas que de la matière, c'est une forme de langage. Ça échappe à certaines choses matérielles, ou plutôt ça part d'une chose matérielle, ça se développe, ça y retourne. Mais vous voyez, si je devais penser une école, ce serait vraiment un souci pour moi, au bon sens de souci, ça serait d'essayer de construire pour les actrices la possibilité que des formes de jeu soient véritablement manipulables. Et qu'évidemment, elles impliquent la nécessité de la question du jeu. Je dis ça parce qu'il y a des formes magnifiques de théâtre, enfin, ou en tout cas de moments théâtraux, qui ne requièrent pas de jeu. Hein ? Mais moi, en tout cas, c'est ça qui me fait vibrer. Mais tu peux pas savoir comme ça me fait vibrer. C'est une déglingue totale. Eh oui. Ben oui. Mais oui, mais parce que ça n'a pas l'air évident, mais... Homo ludens ou l'être ludique. Mais je veux dire... C'est complètement extraordinaire. Quand... Donc jouer, c'est quand même un prédicat avant l'art. Et après, ce qui fait art, c'est que, précisément, le jeu en tant que tel est pris dans une forme. Et on distingue les formes. Et on commence à les agencer. Bon, voilà. 60 ans, 70 ans, on est bien.
Mais donc, tu as le sentiment de réaliser ce que tu veux faire.
Moi, c'est parti de... C'est pas un télo, quoi. Après, je suis devenu une tronche, mais au départ, c'est quand même parti d'une dépense physique. En fait, je viens du sport, quand même. Et quand je jouais, j'étais au tennis, je me souviens que les gens disaient c'est physiquement qu'il est dur, lui, hein, à jouer. C'est-à-dire que j'étais, tu vois, un peu... J'étais sans doute moins bon techniquement et tactiquement. Mentalement, j'ai toujours un peu des failles. Mais physiquement, il faut quand même m'épuiser, tu vois. Et c'est vrai que je remarque qu'au début, quand on a commencé, je n'avais pas l'alphabet des gens qui viennent du milieu culturel et tout ça. Et moi, je passais par... aussi d'où tu viens, tu utilises les choses. Il y a énormément... Il y a un champ de représentation, il y a un champ de lexical, il y a un champ de mots très, très proche entre le sport et le théâtre. Entre la dynamique d'un espace et des corps dedans et la question tu vois, du terrain. Alain François en parle très bien de ça. Passer en profondeur, passer, tu vois, comment tu... Et donc, c'est ça qui... C'était la dépense physique qui a pu s'établir aussi dans un jeu très verbal, très rapide. Aussi, les gens souvent disent qu'on joue très rapidement. Ça vient aussi, je pense, d'un certain rythme, tu vois. Et bon, ça a commencé comme ça. Et puis, au fur et à mesure... Non, atteinte, je pense pas. Mais c'est pour ça qu'on continue, quoi. Hein, c'est une tension qui nous permet de... T'imagines ou pas si tu réalises ta forme et tu fais « c'est bon ».
Moi, je me rends compte, là, que j'aime de plus en plus mettre en scène. Je sens qu'il y a un terrain fertile. Quand je lis une pièce de théâtre ou quoi, je commence à rêver, je commence à voir des images et à vouloir le porter au plateau. Et je voulais savoir, Sylvain, du coup, comment chez toi, cette étincelle-là naît en toi ? D'envie de mettre en scène, du plus noble, de mettre en scène un texte. Oui ?
Mais tu penses qu'en te concentrant encore plus en disant le terme, ça éclaire le truc ou pas ?
Oui, de mettre en scène un texte. C'est beau.
Moi, j'ai l'impression de travailler à mettre en scène les actrices, pas les textes. Tu vois, par exemple, je ne suis pas là dans ma bibliothèque en regardant. Non, mais parce qu'il y en a, c'est ça, le moteur. Ils sont là et comme l'index sur les différents trucs, tac, ah oui, ça serait bien. Ils ont un rapport au texte et tout ça. Moi, c'est un rapport à l'équipe. Donc là, il s'agit des actrices et ils n'ont pas de numéro, ils ont encore des prénoms. Tu vois, ce n'est pas le numéro 10, le numéro 8. Mais c'est quand même ça dans quoi gît le désir de mettre en scène, tu vois. Après, donc voilà, après ça, j'aime bien les textes, je les lis et tout ça, tu vois. Mais tu vois, depuis très longtemps, ça fait longtemps que je n'ai pas mis en scène de théâtre, par exemple. L'écriture théâtrale, c'est pas la littérature, c'est autre chose, c'est pas le roman. Donc tu pourrais m'interroger sur pourquoi j'adapte des romans depuis 15 ans.
Ça, et pourquoi tu adaptes des romans depuis 15 ans ?
Ben, c'est parce que j'ai pas confiance au présent. En ce moment, j'ai une crise depuis 15 ans, j'ai une grande crise sur le présent. Le théâtre, c'est un art du présent. Marivaux, c'est un génie de la situation dramatique. Dostoïevski, c'est pas du tout un génie de la situation dramatique. Pas du tout. Et quand j'adapte du roman, c'est comme si je choisissais un matériau de départ qui est déjà légèrement au passé. Il y a comme quelque chose, je le dis pas, ça fait 10 ans que je cherche, mais donc là, je dis, il y a quand même quelque chose qui a à voir avec une crise de je ne sais pas encore exactement dire quoi, que j'ai poussé très fort là dans Pétrole, parce que j'ai même presque enlevé les corps des acteurs là, le corps présent des acteurs puisqu'ils sont filmés. Donc j'éloigne quelque chose qu'on appelle présent, qui normalement a sa souveraineté dans l'acteur qui est en train de bouger, qui est en train de jouer, et qui a une écriture qu'on appelle l'écriture dramatique, comme socle. J'ai d'abord enlevé l'écriture dramatique pour adapter des romans. Le roman, c'est pas une écriture dramatique. C'est pas l'action qui est le moteur du récit. Et là, j'ai un peu enlevé le corps des acteurs. D'ailleurs, les acteurs résistent un peu, tu vois. Parce qu'ils sentent bien que je suis en train de filer un mauvais coton. Donc on va revenir, peut-être, du théâtre. Et donc c'est quand même une crise, tu vois. Mais bon, ça vient d'un moment où on a fait un théâtre. Tu vois, c'est dans les parcours de compagnie, tout ça, c'est pas que des goûts personnels, tu vois. C'est pas, oh, tu sais, moi, la littérature m'intéresse, alors je monte des romans. Il faut voir, il y a des mouvements positifs. Positifs pas au sens moral, pas au sens positif, pas au sens bien, pas bien, mais au sens qui apparaissent comme un lent. Et parfois, tu fais des choix de parcours du fait des traumatismes, des blessures, des difficultés, des séparations, des engueulades, de la fin d'une compagnie, d'un projet qui se passe mal. Tu vois, c'est quelque chose qui traverse l'expérience, enfin, ou plutôt l'expérience qui traverse. Mais je le dis là un peu en impro. Mais je sais que c'est un problème que je ne sais pas encore résoudre, le fait que je me suis absenté du théâtre depuis une dizaine d'années. Alors, on travaille quand même avec des auteurs passionnants, très difficiles, intéressants, et tout ça, ça n'empêche pas, tu vois. Mais il y a contournement, là. Il y a une blessure, il y a quelque chose qui n'est pas réparé et qui est encore le signe, le témoignage, je ne sais pas.
Mais du coup, le choix de la caméra sur Pétrole, c'est aussi dans l'idée de cette fissure de s'éloigner un peu du théâtre, parce qu'il y a quand même une grande place à la caméra. Et parfois, surtout sur la première partie, on a un peu l'impression de, même si c'est du jeu live, d'être un peu au cinéma, mais pas vraiment. Et donc, c'est aussi un peu. Ça vient là aussi, cette idée de mise en scène, ou c'est juste parce que.
Non, là, non, mais parce que ça, là, j'essaye de faire un truc analytique. Mais ceci dit, après, il y a aussi d'autres raisons, qui est que là, par exemple, quand tu adaptes Pétrole, c'est un roman sous forme de notes, fragmentaire, fragmenté, inachevé, tout ça. Et donc, du coup, il y a quand même une chose qui est que, à un moment donné, tu as besoin de gagner de la vitesse ou de la proximité. Tu as besoin de t'approcher, tu as besoin de changer le rapport d'espace-temps. Et la caméra permet ça. Enfin, peut permettre ça. Après, tu sais, j'ai une autre chose, c'est que moi, j'aime bien les métiers. C'est les actrices que je préfère, mais j'aime bien les autres métiers. J'aime bien essayer de les maîtriser. Quand je parle des autres métiers du théâtre, la lumière, le son, la vidéo, les costumes, l'espace, la scénographie, le plateau, etc. Donc j'ai toujours une curiosité aussi pour les métiers, tu vois. Je pense pas que je ferai de la vidéo toute ma vie. Mais disons que entre ce qu'était ce poète Pasolini, les différentes formes d'art qu'il a pratiquées, et puis par rapport à ce que raconte Pétrole et qu'est-ce qu'il reprend dans sa propre, dans tout au long de son œuvre, je trouvais que c'était une possibilité. Mais vous voyez, par exemple, dans le spectacle, à un moment donné, il y a une scène sans caméra. C'est immédiat, où on voit que tout d'un coup, l'acteur redevient souverain de l'espace et du temps. Et la matérialité, tout d'un coup, c'est avec Arthur, enfin, c'est quand ils sont sur scène, là. Et c'est marrant parce que, tu vois, ces deux écritures scéniques, vraiment, tu sens physiquement la différence, quoi. Mais là, c'était, tu vois, c'était... Je ne l'aurais pas fait sur Dostoïevski, ça, par exemple, utiliser la vidéo.
Moi, j'ai une petite anecdote, c'est qu'en fait, quand je suis arrivée en seconde, j'ai formulé pour la première fois que je voulais être comédienne. J'ai formulé ça à une prof de français qui m'a répondu à ce moment-là, « Tu sais, être belle, ça ne va pas suffire pour réussir. » Donc ça a été un peu violent.
Et donc, on a une question pour toi, Arthur. En tant que comédien, et quand on se construit, on a beaucoup de projections qui sont faites sur nous, par des gens qui nous aident à nous améliorer, tout ça, des choses qui nous aident ou pas. Et je me demandais comment on se construit avec le regard des autres en tant que comédien. Comment on arrive à...
C'est indéniable qu'il y a des paroles qui foutent la merde. Oui. Quand on essaie d'être actrice ou acteur. Mais bon... Dans la vie aussi, quoi. Il y a des paroles. Enfin, je veux dire, au-delà de métier d'acteur, c'est toujours marrant de dire, mais pourquoi cette parole qu'on m'a dite va me travailler plus et pourquoi je vais m'encombrer avec ce truc? Mais comme des phrases qui résonnent de l'enfance ou un adulte t'a dit un truc. Et c'est quand même de l'ordre de ça pour moi. Que je me souviens, je me pose souvent la question, pourquoi cette parole-là qu'on m'a dite quand j'avais 8 ans, qui n'a rien à voir avec actrice-acteur, me travaille plus et a un effet direct performatif sur moi et a une influence et tout ça. Et donc, oui, il y a des paroles qui foutent la merde. Ça, c'est sûr. Mais alors, c'est pour ça que moi, c'est pas tant une question de regard, parce que j'ai l'impression, mais c'est aussi beaucoup parce que du travail qu'on a fait avec Sylvain et de la compagnie et tout ça, c'est-à-dire que s'il y a une chose dont je suis certain, c'est que notre travail est effectif, c'est-à-dire qu'on travaille. Et ça paraît rien à dire, mais c'est quand même quelque chose d'avoir l'impression d'être au travail avant que la répétition commence, d'être au travail, un autre travail commence pendant la répétition et un travail continue pendant la représentation. Et cette notion d'être au travail rend quand même le regard des autres important, mais justement, il n'y a plus cette chose où tout d'un coup, les phrases vont pouvoir donner trop d'influence ou quoi. Et cette chose d'être au travail en permanence, protège de quelque chose qui pourrait être assez nocif de qu'est-ce que je renvoie ou quoi, puisque bien sûr, on peut être encombré par ces trucs et se demander est-ce que... Mais quand tu sais que le travail est opérant et qu'il continue à être opérant, même quand des gens te regardent, Sylvain, un jour, il a dit, quand on faisait un spectacle avec une promotion du TNS, et il a dit, le jour de la première, il a dit, aujourd'hui, ce n'est que le moment où on est prêt pour que des gens continuent à nous voir travailler. Et j'ai trouvé ça très marquant parce que justement, cette chose de les gens vont assister, bien sûr, on est prêt à montrer une représentation, mais on va se montrer au travail, protège d'un regard. C'est-à-dire que toi, tu viens pas montrer une forme, et ça veut pas dire que tiens, mais du coup, aujourd'hui, j'ai été moins bien. Bah, c'est pas ça, hein. T'as quand même la forme, t'as quand même l'agencement qu'il faut respecter. Après, il y a des notes quand tu t'es foiré sur des trucs et tout, mais tu es moins poreux à une représentation de toi-même ou à ce que ça pourrait. Quand même faire. Donc quand même, ce qui protège, c'est ça. Et moi, je me souviens que justement, parfois, dans des cours ou des choses qui n'avaient pas marqué, ce qui rend fragile avec ces choses-là, c'est qu'on ne sait pas encore toujours très bien ce que ça veut dire travailler l'acteur. Tu te dis, mais quoi, j'ai appris mon texte, est-ce que j'ai pas... Et donc, tu es très poreux à ce que tu renvoies, quoi.
Ça me fait penser à ce que tu dis, c'est que c'est une idiotie, enfin une idiotie ça serait bien, mais c'est une connerie de parler du métier de l'actrice comme d'un métier d'image. Parce que c'est un métier de mouvement. Et comme il y a un signifiant qui est accolé à l'image comme une chose figée, c'est ce que j'entends, par exemple le spectacle est le moment figé et fixe, comme si ce n'était pas un mouvement, comme si ce n'était pas traverser un mouvement, ou ce que tu as décrit, tu vois, la phrase blessante de l'image. L'image qu'on renvoie, l'image qu'on m'envoie, l'image qu'on me renvoie des jours. Enfin, vous voyez, toutes ces... ça n'a rien à voir avec le... Ça n'a rien à voir avec le travail. Rien. Le métier d'actrice n'a rien à voir avec l'image. Enfin, quand je dis l'image, à moins quand c'est comme à une passante de Charles Baudelaire. La rue assourdissante autour de moi hurlait. Tu connais ? Elle passa, hop, elle disparaît. L'image, c'est quelque chose qui se saisit. À un moment, elle se construit dans le mouvement. Tac, elle est saisie en mise en scène, elle est saisie par le jeu. Vous voyez ? Mais... Ou alors, c'est l'image du dessin animé. C'est 1000 images. Tac, 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 tac. Et un mouvement, ce n'est qu'une suite d'attitudes bougées à un certain rythme. Donc, si on est sur un métier de mouvement, si on parle en termes de mouvement, que ce soit le travail, la mise en scène, l'art de l'actrice, c'est une chose. Mais tout ce qui vient figer le mouvement dans l'image ou dans l'identité arrêtée, attention, c'est faux ami, bizarre. Et en même temps, cette société, enfin, on est confronté à ça pour plein de trucs. Il faut donc se battre, réfléchir, essayer de constituer des forces pour constituer des conditions qui rendent possible le travail et pas qui détruisent les possibilités du travail. Le temps se venge toujours de ce qu'on fait sans lui. Et le marché du travail ou la libéralisation des conditions de travail dans le théâtre aujourd'hui sont là pour détruire le temps. Et donc évidemment, après, les gens vont se conduire comme des images. Parce qu'on n'aura plus l'espace-temps pour travailler, en fait. Bon, c'est con, c'est simple.
Donc cette idée de l'image, des images qu'on a, c'est une forme d'angoisse, surtout à nos âges, de savoir ce qu'on renvoie, de savoir ce qu'on pense de nous. Et puis il y a aussi une autre angoisse, c'est de voir depuis plusieurs années la montée du nationalisme, de voir un paysage politique qui est très fragmenté, de voir les coupes budgétaires pour la culture, de voir toute cette fracture qui continue. Et donc moi je voulais vous poser la question, pour nous en tant qu'acteurs et actrices qui débutons, qu'est-ce qu'on doit avoir à l'esprit, avoir conscience quand on rentre dans un domaine aussi fragilisé?
Ouais, c'est vrai que d'abord, je vais pas te mentir, c'est inquiétant. C'est assez bizarre. J'ai comme il y a une conscience que j'ai pas là-dessus pour l'instant. Comme je me suis pas encore réveillé. Je le vois, tout le monde le dit et tout ça, mais je ne me suis pas préparé à ce que je vois arriver. Donc je n'ai pas de conseils. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est, mais aussi parce que on est quand même en compagnie, donc on subit aussi ces choses, mais on est quand même entre nous et on travaille quand même beaucoup et tout le temps et on est quand même souvent dans des salles de répétition. Ça ne m'empêche pas de voir ce qui se passe ailleurs et tout ça, mais enfin, qui se passe aussi chez nous et comment ça se passe. Mais du coup, c'est bizarre, hein. Parce que c'est sûr que c'est là que c'est en train d'arriver. Et ce qui est sûr, c'est que moi, ce qui m'a toujours sauvé et ce en quoi j'ai toujours pensé, c'est que ça reste un art collectif. Et c'est quand même ça qui fait que. T'es pas tout seul, donc c'est quand même d'être plusieurs. Et ce plusieurs, c'est comme ça, ça se monte avec des amitiés, dans des écoles, dans des trucs, avant, après et tout ça. Et que c'est quand même ça qui permet de passer les étapes. Après, il y a des gens, moi j'ai des amis qui ont toujours voulu faire des carrières en solitaire et ils l'ont fait et tout. Et quand je les regarde, j'ai dit, mais oh là là, moi qu'est-ce que je serais malheureux dans cette chose-là. Mais ça, c'est vraiment une chose de nature. Et que du coup, quand même. Sont attaquées les formes qui demandent d'être collectives. Elles le sont beaucoup plus que les carrières singulières. Et là, je parle d'une chose plus générale. Et que quand même, faut faire kamikaze et qu'il faut continuer à faire le théâtre comme une œuvre collective. Et c'est le seul conseil que je peux dire. En tout cas, moi, je sais ce qui me rend moins inquiet, c'est ça.
Si vous avez des parents qui ont du patrimoine, et essayez de les convaincre de transmettre tout de suite. C'est vrai que ça fait. Moi, je dirais, franchement, comment dire ? Je dirais qu'il ne faut pas trop. Enfin, je dirais rien. Je ne peux pas te dire.
Je sais que c'est une question compliquée.
Non, c'est pas compliqué.
Non, pas tant.
Non. Pardon, excuse-moi, c'est pas que c'est compliqué. C'est que, bon, le théâtre, c'est un agencement collectif et matériel de la poésie, d'une pensée. Bon. Donc, comme dit Arthur, si tu veux pas faire des trucs avec des gens, vaut mieux pas faire de théâtre. Bon, tu peux faire du théâtre un peu tout seul, mais compliqué. Mais sur le discours démoralisant. Effrayant, sur les directions des régionales des affaires culturelles qui disent ne faites plus de compagnie parce que de toute façon il y aura plus d'argent, etc., etc. Tu vois, ou c'est trop long les spectacles, faut pas faire des spectacles longs et puis il faudrait qu'il y ait deux personnes sur scène parce que sinon vous allez pas tourner, vous allez pas vendre. Psst. Il faut faire ce qu'il faut faire tant que vous pouvez. Je sais pas comment dire. Enfin, pour moi c'est, tu vois, c'est, en tout cas c'est des discours rationnels, oui.
Ben il faut faire pour lutter en fait, c'est ça quoi.
Ben, c'est-à-dire quand tout d'un coup l'échange est attaqué. Tu ne peux que te d'abord réfugier pour penser, pour réfléchir, pour fourbir les armes dans l'usage. Et l'usage, c'est faire du théâtre. Ce n'est pas de faire du théâtre. Alors, bien sûr, il y a moins d'argent, il y aura moins d'argent. Enfin, tout le monde va se démerder. Il y a des gens qui ne pourront pas, qui ne voudront pas, qui n'auront pas la force d'âme, les possibilités matérielles, enfin, que sais-je, et qui, bah, comme souvent, changent de secteur ou, je sais pas, abandonnent, enfin, pas abandonnent, pas au mauvais sens du terme, parce que c'est pas contre que je dis ça, mais... Et puis, il y a ceux qui mettent le couteau entre les dents et qui vont... Sur cette question-là, il n'y a pas 36 solutions. Hein. Et puis, après, il y aura d'autres trucs où il y aura des attaques encore plus extérieures, encore plus insupportables, et qui laisseront le théâtre... Voilà, et puis tu as le réseau Janson, et à un moment donné, Janson et ses copains, ils décident de passer des billets de banque au FLN parce que c'est ça qui est important. C'est pas de faire des pièces de théâtre. Donc ça dépend, voilà, de comment les groupes sont constitués et tout ça. Ta question me paraît très large par rapport à, tu vois, comme si tu étais tout seul dans le marché du travail. Tu vois. Mais oui, ça, excusez-moi, c'est vraiment une réponse de merde, mais...
Non, mais merci d'y avoir réfléchi. Merci beaucoup d'avoir essayé d'y répondre.
On arrive à la fin de cette rencontre. Alors, on a une petite tradition pour les élèves de la classe de la comédie, c'est de se présenter avec une citation. Donc, moi, aujourd'hui, la mienne, ce serait « Chacun recèle en lui une forêt vierge ». Une étendue de neige où nul oiseau n'a laissé son empreinte. Virginia Woolf.
J'ai rêvé de trouver dans les poussières scintillant sous la lumière la preuve de la magie. Céline Cerny, le feu et les oiseaux.
Mais comme toujours, la tragédie s'achève mal. Ainsi, en confiance, nous commençons. Iphigénie de Thiago Rodriguez.
Mais le temps, mon ami, pour moi, c'est de l'amour. C'est rire, c'est chanter tant que dure le jour. Jacques Demy, les demoiselles de Rochefort. Et vous, quelle serait la vôtre ?
J'en ai une, mais je sais jamais si je la dis bien ou pas. Mais les vrais voyageurs sont ceux-là seuls qui partent pour partir. C'est ça ou pas, c'est loin ? Mais je la refais, maintenant que je suis sûr. Mais les vrais voyageurs sont ceux-là seuls qui partent pour partir.
Cœurs légers, semblables aux ballons, de leur fatalité, jamais ils ne s'écartent. Et sans savoir pourquoi, disent toujours « Allons ».
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci d'être venu.
Merci.
Merci.
L'enfance de l'art. Une masterclass avec les élèves de la classe de la comédie, CDN de Reims. Ecomédie.fr.